Ah bah rebonjour tout le monde, on a le plaisir avec, d'être avec Guilt aujourd'hui, a.k.a. François.
Salut.
Dernière interview de la journée, on est aussi avec Charline, Quentin et Lucky.
Hello.
Coucou.
Ça va, donc du coup là tu sors de ta performance au Futuro, ça va, ça a été?
Ouais, j'ai encore un peu la tête retournée là, il faut que je reprenne mes esprits, mais c'était trop cool, ouais.
Ah ouais, on va respirer un bon coup, ça va bien se passer, 18h15, ouf, compliqué. C'est ça. Et du coup, de ce que j'ai compris, des informations que j'ai pu un peu prendre, c'est ton premier EP qui vient de sortir là actuellement, c'est ça ?
Ouais, on a sorti un premier EP en mars. Moi, j'avais sorti un premier single, mais en solo avant ça, il y a deux ans auparavant maintenant. J'essaie de compter en année Covid et je suis complètement perdu.
Ah ouais. Tout le monde.
On va se comprendre.
Voilà, 2020, c'est il y a deux ans, ouais. Et puis là, on a sorti un EP, mais avec plus de musiciens dessus en mars 2022.
On épargnera mon accent un peu merdique anglais, c'est There'll Be an After Storm, c'est ça?
C'était vraiment très correct.
Merci beaucoup.
Bravo.
C'est le moins pire des trois donc, qu'on a choisi.
Arrêtez. Et du coup, voilà, cette EP, j'ai pu avoir le plaisir d'écouter un petit peu ce que tu faisais, et on a une sonorité très très douce, mais on a quand même des textes qui sont vachement, je sais pas si introspectif c'est le terme qu'on pourrait utiliser.
Ouais, en tout cas il est pas mauvais. Il y a beaucoup de choses dans les textes en vérité, il y a des trucs qui sont plus engagés par moment, et puis en fait il y a des trucs qui sont relativement introspectifs et qui tournent beaucoup autour de la question de la santé mentale et de la bipolarité, parce que c'est une maladie que je me suis découvert il y a quelques temps maintenant. Et puis j'ai remarqué que naturellement en fait mes textes ont évolué vers ça. Je pense que ça faisait peut-être un petit temps que je me cherchais aussi en écriture et à partir dans beaucoup de terrains différents, et puis finalement en écrivant des textes sans trop réfléchir, j'ai commencé à réaliser que les choses revenaient un peu sur ce terrain là c'était un peu ce que je voulais, je pense, exploiter, et à la fois dans les textes et à la fois musicalement, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui tournent autour de la bipolarité de manière générale, quoi. Des chansons qui commencent d'une manière et qui finissent de manière très très différente. Donc il y a un peu ces deux versants en permanence qui s'entrechoquent, je pense, dans l'EP, donc à la fois dans les textes et dans les chansons en fait.
Voilà. J'allais dire, on avait justement une question un petit peu sur la démarche derrière ton EP et les grosses thématiques que tu aimes, parce que t'as parlé aussi de chansons plus engagées. Ben pour le côté introspectif, je pense que ça va, t'as plutôt bien développé, mais du coup...
Il y a de ça, et puis après sinon on peut parler aussi du premier single que j'ai lancé, qui m'a permis aussi d'attirer d'autres musiciens puis de commencer à développer le projet. C'était clairement une époque où là j'étais sur des trucs plus engagés. Maintenant j'ai parfois du mal à savoir où me positionner dans l'écriture, parce que parfois on écrit des trucs et puis trois mois plus tard on se dit mais qui je suis pour écrire ça et dire ça. En fait il y a toujours un peu cette question permanente de la place qu'on a et de qui on est pour. Mais le premier single qu'on avait sorti, Message Shot, c'était quelque chose que j'avais écrit avec un pote à moi qui est un poète syro-palestinien qui s'appelle Karam, et qui traitait beaucoup de la question de l'exil et de la manière dont l'Europe ouvre ou plutôt ferme ses portes aux gens qui essayent d'arriver. Et lui avait fui de Syrie il y a quelques temps déjà maintenant, et pu être heureusement régularisé il y a quelques années. Et on était parti de poèmes que lui avait écrits notamment dans les périodes d'exil. Et en fait, c'était pour la première fois une manière d'écrire que j'ai beaucoup aimé, parce qu'au lieu de partir de textes que moi j'ai fait à la base, j'ai d'abord composé des musiques et puis j'ai arrêté toute écriture de textes. On est parti de poèmes à lui en arabe qui sont à la fin de la chanson, et puis moi j'ai réécrit par rapport à ce que lui avait écrit. Et puis on avait fait un truc assez cool aussi sur le clip, qui était d'avoir collecté en fait des images depuis pas mal de centres de réfugiés en Belgique, en Turquie et en Grèce, donc des images qui avaient été prises par les réfugiés et qui étaient mêlées avec des images de l'Europe ou de ce qu'on peut appeler la forteresse européenne, quoi. Donc tous des plans sur les très très beaux bâtiments de l'Union Européenne à Bruxelles, etc. En contraste un peu avec ce qu'on dit qu'on est, les belles statues, tous les trucs d'accueil et les belles valeurs, etc. Et puis les gens qui sont bloqués aux portes de tout ça de l'autre côté, quoi. Voilà. Mais ça, c'était il y a deux ans.
C'est un sacré contraste sur les belles paroles que tout le monde peut avoir.
Bah ouais, mais du coup, pour revenir sur la question de l'autorisation à écrire, moi j'étais content de pouvoir faire une chanson comme ça, mais à la base, même si c'est des textes, tu vois, qui peuvent, toi, en tant que, je me décris toujours, tu vois, comme un blanc européen bien né, dans un homme cisgenre et tout ça, enfin, je cumule tous les privilèges possibles et imaginables, et du coup, la question est toujours de dire, est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir des portes sur soi-même et d'arriver à parler d'autre chose que de sa position de privilège. Je pense que c'est cool d'ouvrir les portes aussi à d'autres personnes et les intégrer, et d'intégrer des récits tiers là-dedans et de collaborer un peu. C'était un peu l'idée de tout ça.
Oui, tout à tout à fait, parce qu'on voit que tu collabores quand même pas mal avec, avec pas mal de musiciens, etc., ouais. qui doivent être du coup des musiciens de plein d'horizons différents. Ici, sur scène, il n'y avait que toi ou il y avait d'autres personnes avec qui tu collaborais ?
On était cinq et c'est déjà... c'est pas les musiciens originaux du projet, c'est-à-dire qu'il y a un peu des backups. Donc là, on était avec trois musiciens différents, ce truc-là. Donc pour l'instant, ça a été un peu la galère de ces derniers mois, c'était de trouver des backups, de former des musiciens, parce qu'il y a 9 musiciens différents sur le projet alors qu'on est 5 sur scène, donc
voilà, quand même.
Ça bouge un peu.
Mais à gérer, ça doit être un ensemble d'expériences de vie qui doit être assez intense à gérer quand on est dans le monde de la musique et de la performance, en fait. Comment ça se gère quand on a un projet musical en commun, d'avoir autant de visions différentes sur le monde et de se regrouper comme ça autour d'un projet musical?
Bah, après, le truc, c'est qu'il y a une particularité avec Guild, c'est que c'est le nom indique et fait croire que c'est un groupe, alors que les choses partent de moi et c'est un peu ma gueule sur le projet et tout, et ça parle de mon écriture et c'est les musiciens qui sont venus autour. Mais j'avais envie d'avoir quelque chose qui se limite pas au projet solo, parce qu'on me l'a beaucoup dit, le mieux ce serait de mettre ton nom et juste ton visage et ton truc, c'est ça qui se fait en musique maintenant. Le mieux ce serait d'être que deux musiciens sur scène pour que ce soit léger, facile, etc. Et quand on me dit quoi faire, j'ai toujours envie de faire le contraire, donc c'est un peu ça qui s'est passé. Mais du coup, la direction musicale, elle est pas trop compliquée, dans le sens où c'est quand même moi qui écris quasi tout. Et puis après, on s'est beaucoup rencontré, surtout avec Antoine Flippot de Glass Museum, qui m'a beaucoup accompagné sur l'écriture du premier EP. Donc il y a juste des trucs qu'on a un peu partagés et améliorés, je vais dire, ensemble, de mon écriture initiale. Mais sinon, ouais, les choses, elles parlent plutôt de moi. On n'est pas dans une démarche de groupe à répéter, chacun met une chanson, en tout cas pour l'instant. Mais les choses bougent, en fait, bougent beaucoup, elles vont continuer de bouger, d'évoluer. Donc c'est toujours très difficile pour moi de parler du projet au moment présent, en sachant qu'il va dans un mois, il va être différent, et puis dans 3 mois, peut-être différent aussi.
Projet en mouvance, un projet à suivre de près.
Ouais, après tu vois, c'est le tout début aussi. Je sais que je suis en émergence sur les trucs et que ça se cherche encore un peu. Donc, et comme j'ai un peu ce truc de vouloir toujours aller visiter d'autres trucs, de pas me cantonner à un carcan stylistique qui est le plus évident, tu vois, j'ai envie de bouger. Donc il y a un peu cette tension permanente entre ce qu'on me dit qu'il serait bien de faire quand même, pour que ce soit plus lisible et plus simple, et ce que moi j'ai envie de faire. Donc parfois j'arrive à trouver la même longueur d'onde et parfois c'est plus compliqué.
Je veux bien croire. Petite question qui est peut-être un petit peu à part. Je ne sais pas si tu as vu, mais chaque jour à Esperanza, il y a des thématiques. Les thématiques d'aujourd'hui qu'on a essayé de mêler dans un débat là il y a quelques minutes seulement, c'était les thématiques autour de la justice climatique et les thématiques queer. Est-ce qu'il y en a une des deux qui t'inspire particulièrement ou qui a résonné en toi récemment?
Les deux à fond. Je pense celle qui a le plus résonné en moi récemment, ça doit être probablement celle de la question climatique. Ah bah, tu parles de justice climatique ou
justice
de
climatique et environnementale?
Ouais, bah ça clairement c'est quelque chose qui me... Je pense que je suis... Ah, putain, j'allais dire climato-sceptique, c'est pas du tout ça le mot que je cherche. Tout à fait autre chose. Comment on dit quand on a des graves formes de dépression par rapport à la question climatique?
Éco-anxiété.
Voilà.
On en parlait justement.
Ça, c'est un truc dont j'arrive vraiment pas du tout à me sortir et qui me plombe la tête vraiment au quotidien, qui me fait remettre beaucoup de choses en question. Et parfois, je remarque que c'est très très difficile de trouver un sens de la mesure et de se repérer là-dedans, tu vois, entre les gestes que tu essaies de faire au quotidien mais qui sont jamais suffisants versus moi je fais ça mais en fait l'effet colibri de toute façon c'est mort et ça sert à rien, parce que en fait je suis extrêmement fatigué par cet aller-retour mental permanent entre essayer d'être quelqu'un de bien et d'être aligné vis-à-vis de ses valeurs et de vouloir aller dans un sens et en même temps ne pas vouloir être s'enfermer dans un cliché, parce que je trouve que pour l'instant il y a un truc qui me marque beaucoup sur les questions climatiques, c'est que je suis en train de voir que le climat est en train de devenir une opinion. Et ça, c'est un truc qui me rend ouf. Il y a un truc de... Je vois dans les actions climatiques que des gens font ou pas, c'est-à-dire les gestes qu'on fait au quotidien, comment on achète, comment on se déplace, comment on s'habille, comment on interagit, etc. C'est de plus en plus en train de devenir un marqueur d'appartenance sociale. Je fais partie de ce groupe-là, des bobos bruxellois, machin, etc. Plutôt, tu vois, et ça, c'est un truc qui me prend la tête à crever. Clairement. Parce que j'ai un espèce de truc où j'ai jamais envie d'exclure comme ça. Tu vois, je réfléchis beaucoup justement à cette question d'intégrer l'intersectionnalité, tu vois, mais de la déployer à tous les niveaux, vraiment. Intersectionnalité doit être un réflexe de la vie à tous les niveaux. Tu vois. Et pour moi, l'intersectionnalité, du coup, elle doit arriver à intégrer les gens de droite aussi d'une manière, tu vois, dans le débat, c'est-à-dire.
Non, clairement, clairement.
Tu vois, il y a un truc comme
chaque
moi,
opinion qui... est important et ici, excuse-moi, je t'interromps un peu, mais non, c'est, on parle de l'écologie là, et l'écologie, ça devrait pas être un parti. Si on parle de politique, ça devrait être dans tous les partis, quoi.
Ouais.
Parce que c'est un problème commun, clairement.
Ouais, non, et c'est... Donc moi, je suis beaucoup en prise de tête sur. Je me satisfais pas en fait des endroits qui me sont donnés pour m'exprimer sur la question écologique. Bon, déjà, j'ai un grand désaveu de tout ce qui est la manifestation, enfin les méthodes classiques qu'on a de manifester notre truc. Je suis au bout d'un moment, bon, on a déjà fait les records de manifestations sur le climat, du nombre de personnes, et maintenant il y a moins de gens qui viennent. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. À chaque fois, je réfléchis, ok, mais l'étape d'après pour arriver vraiment à intégrer d'autres personnes, quitte à ce que ce soit ceux aussi qui n'y croient pas, comment est-ce qu'on fait? Et est-ce que se contenter d'être de plus en plus, enfin j'ai pas envie d'utiliser le mot extrême parce que c'est pas de l'extrême, mais d'être de plus en plus dans son chemin, à essayer de chaque jour dire mais ça je fais plus, ça je mange plus, ça je... y a rien à faire, on s'éloigne d'autres personnes en même temps, il y a toujours cette question de dire comment est-ce qu'on fait pour pas apparaître ce fameux mot des ayatollahs de l'écologie, pour tu vois ne pas être
on est pas parfait, on peut pas contenter tout le monde, ouais. Il y a nos idées et nos idéologies, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure avec ton groupe, dire je pourrais être plus mis en vue et plus écouté, mais en même temps rester garder ta patte, rester dans
garder ses valeurs,
c'est ça, garder ses valeurs. Je pense que c'est ça le plus important, garder ses valeurs. Et puis pour reprendre aussi via le nom de ton groupe coupable, du coup c'est aussi ce qu'avec le marketing écologie on nous fait faire. Dire nous on a peut-être si peu d'emprise pour changer, mais on a envie de changer, mais c'est peut-être aussi à nos gouvernements de prendre les mains, les choses en main. Et
c'est marrant que tu dises le nom du groupe parce qu'il vient beaucoup de ça en fait. Le Guild, j'ai toujours dit que ça recouvrait différentes dimensions. Il y a la dimension personnelle qui a été que pendant longtemps, moi j'ai pas fait de musique, je me suis un peu empêché d'en faire parce que j'étais un peu dans des délires perfectionnistes où c'était jamais assez bon. Et donc c'est un peu comme mettre le truc, je regarde mon ennemi en face, entre guillemets, en disant bon, se sentir coupable, ça va pas quoi. Et puis après, c'est utiliser le mot culpabilité comme un espèce de sentiment un peu contemporain et sociétal, quoi. Nos rapports aux choses, tu évolues avec une culpabilité telle et qui part d'une bonne intention et qui est normale, mais qui en même temps, c'est horrible d'avancer chaque jour avec un sentiment de culpabilité, quoi. Et ça à tous les niveaux, parce qu'on parle, on parle de climat, mais bon, je veux dire, c'est sur beaucoup de questions que je vais appeler décoloniales de manière générale, ou en tout cas de déconstruction de la pensée. Parfois, moi, j'ai aussi du mal avec toute la déconstruction et la pensée féministe. Je suis à fond pour, etc. Et je vois parfois dans mon entourage que la déconstruction, entre guillemets, mène à des schémas où on est négatif vis-à-vis de soi-même. Alors, je suis toujours en recherche de dire, ok, mais comment est-ce qu'on peut arriver à nouveau avoir cette inclusion qui soit positive et se dire que ce soit une aventure qui est positive, en fait, qu'on vit.
Oui,
c'est cool
ça.
De se déconstruire. C'est cool de se dire, je faisais ça avant, ça allait pas. Je me suis limite senti coupable avant, mais maintenant, j'en prends conscience. Et tu vois, c'est pas facile de. Un peu de culpabilité comme quelque chose d'un peu
on est tous dans le même rouage d'un certain combat, quoi. Même si c'est pas le même, on passe tous par là, donc on pourrait s'ouvrir à faire pareil sans exclure les gens
c'est facile à dire parce que je dis tout ça, mais c'est, pour moi tout est très compréhensible, c'est-à-dire qu'on est pour moi dans un moment sur les questions de, pour revenir à la question de justice, mais de justice sociale, mais aussi sur les combats queer, sur les combats décoloniaux et tous ces sujets qui sont probablement dans un certain sens connexes aussi parfois, c'est sûr qu'il y a un esprit de réparation qui est nécessaire, et que là maintenant c'est normal, que c'est bien si pour moi ça peut pour une fois être plus difficile en tant que mec blanc d'y arriver que par exemple pour une meuf noire queer ou quelque chose,
clairement,
mais en même temps c'est pas la justice, ça c'est pas l'équilibre, mais parfois je pense qu'il faut retaper dans un autre sens pour viser l'équilibre d'ici à quelques années, enfin tu vois,
clairement,
c'est des trucs lesquels il faut un peu donc moi j'accepte le truc, tu vois, mais voilà. Bon, je suis parti dans un truc là, je suis désolé, je sais pas si.
Ah
non, c'est très bien, ça c'est génial.
Non, c'est très bien.
Réponds aux questions qu'on ne pose pas encore, donc c'est super.
C'est désolé.
Mais non, je posais juste la question de savoir combien de temps il nous restait.
Mais du coup, voilà, on a eu les grosses questions sur l'environnement, mais nous, du coup, il y a aussi la thématique queer. On en a vite fait, on a effleuré vite fait le sujet.
J'ai même pas du tout répondu au sujet, donc tu peux franchement.
Du coup, y aller, c'est bon.
Soyons honnêtes.
Du coup, t'as envie de rebondir?
Ah, c'est moi la signée queer, ouais, tu me vois
c'est
comme ça,
la vas-y,
let's go. Non, on discutait, on a eu l'occasion d'avoir plein d'échanges divers et variés, mais sur la communauté LGBT, sur comment est-ce que on est intersectionnel dans nos luttes. Et en vrai, pour revenir quand même un petit peu sur ce que tu disais, il y a quand même un vrai besoin chez les jeunes de se retrouver en communauté positivement, en fait, et de presque fêter, fêter cette déconstruction-là. Donc,
voilà, tiens, on a le même combat, ça rassure, et c'est ça que tu veux dire.
Ouais, voilà. Donc, est-ce que toi, tu as aussi l'occasion parfois de te retrouver avec des gens qui sont plus positifs à ce niveau-là et qui vont peut-être.
On a les mêmes pensées, les mêmes couleurs de pensée.
Bah oui et non, parce que comme je te dis, je suis un éternel insatisfait de ces trucs et à chaque fois que je suis un peu dans une case, dans un truc, j'ai envie de fuir et d'être l'avocat du diable. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc comme ça. Mais ça, c'est personnel, ça a toujours été un peu comme ça. Du coup, oui et non, parce que ça m'arrive et à chaque fois. Enfin, tu prends juste un moment comme ça, tu vois, juste Esperanza par exemple. De base, c'est vraiment cool, quoi. Tu vois, je suis en mode, c'est quand même chouette d'avoir un espace de respiration juste où t'es avec des gens autour de toi dont tu peux supposer probablement qu'il y a une fibre d'opinion et d'engagement et de sensibilité commune à un degré minimum entre les gens, tu vois. Et que ça, ce soit dans un cadre festif de célébration qui ne suppose. Et que je trouve trop bien, qu'il y a à la fois, il y a des endroits comme ici où on discute et en même temps on fait beaucoup la fête, etc. Enfin, tu vois, ça revient peut-être trop à la question des safe space aussi. Enfin, je sais que le terme, c'est pas vraiment ça, parce que ça part peut-être pas de là, le concept de safe space, mais moi, je l'étends un peu ça aussi, quoi. Les endroits dans lesquels on se retrouve ensemble dans des luttes communes, etc., et que ça ne se fait pas que dans l'affrontement et qu'on peut aussi respirer, sentir. Ça, je trouve que c'est quelque chose, honnêtement, d'assez merveilleux de notre époque, parce qu'il faut pas pointer les choses bien. C'est la création, maintenant, et la normalisation de ces espaces et à plein de niveaux, quoi. Que ce soit des safe space. Moi, j'ai travaillé dans le milieu culturel, j'étais programmateur d'une salle de concert pendant 7 ans. Je vois l'évolution de tous les lieux de concert, bon, pas tous, mais du milieu culturel, à quel point il y a des infrastructures différentes dans les bâtiments maintenant, à quel point les gens au bar sont formés à accueillir des gens en cas de harcèlement. Et, il y a plein de petites choses comme ça qui évoluent quand même dans un sens qui est assez rassurant, quoi. Et c'est cool de parfois de se dire juste, bah, il y a que 4 ans, en fait, ces trucs-là n'existaient pas, quoi. Et parfois, c'est des petites choses, mais combinées les unes avec les autres, ça crée quand même des espaces mentaux qu'on pénètre qui sont très différents, quoi, je pense.
Surtout qu'on vient facilement plus ce qui est négatif par rapport au positif, donc c'est important de mettre plus souvent en avant les petites choses positives qui sont de plus en plus là, comme tu le dis justement, comme ici Esperanza, où il y a des. Ben voilà, on est bien, on a droit de parole, on s'amuse aussi. Bon, c'est peut-être pas totalement une généralité pour tout le monde, mais voilà, il y a quand même ça, quoi. C'est ça qui est chouette et apaisant. Il y a ici à Esperanza, il y a un système, c'est le
plan Sacha.
Est-ce que tu connais le plan Sacha?
Ouais. C'est, attends, plan Sacha, c'est Safe Night ou c'est les drogues? Je sais plus.
Plan Sacha, c'est surtout à la base, ça a été créé du coup ici à Esperanza il y a 4 ans, je pense, un peu plus, en 4 ans, et en fait, c'était dans l'idée d'avoir justement plus autour des festivals, un festival safe au niveau harcèlement et autres. Et donc, parce qu'en festival, d'autant plus, on a facilement du harcèlement, que ce soit sexuel ou de la violence ou des choses comme ça, parce que les gens ont bu et donc ils ont l'excuse de oui, mais bon, c'est festival, c'est cool, puis t'as vu comme t'es habillé. Oui, mais c'est un festival, on se sape comme on veut. Enfin, voilà. Et donc, ça explique un peu là-dessus. Ça, tout un soutien autour de ça. Il y a 2 ou 3 endroits sur le festival, sur le site, où on peut aller voir si on a eu un problème, où on peut aller directement. On a, ils distribuent des bracelets que tout le monde peut avoir, où il y a un numéro de téléphone si on est témoin ou si on est victime de quelque chose comme ça, pour appeler directement, pour mettre de manière safe la personne aussi, en sécurité et tout. Donc, c'est un plan qui a commencé sur Esper et qui est en train de s'ouvrir sur tous les autres festivals, qui essayent de former pour qu'il y ait des plans Sacha un peu partout comme ça, mais c'est fixé principalement sur les festivals. Je pense que c'était ça.
Ouais, c'est ça. Pour répondre juste sur un truc, c'est voilà, habillé comme on veut en festival, mais en dehors du festival aussi, quoi.
Oui, aussi.
Donc,
c'est cool
que ça commence dans un festival et que ça puisse enfin être éduqué pour tout le monde. Toi, ce serait tellement logique et normal. Mm-hmm. Mais bon, on en arrive à devoir avoir des polices ainsi. pour arriver à éduquer les gens.
C'est un côté dommage aussi, mais ça reste rassurant parce que malgré tout, c'est là.
Ouais, c'est la réelle politique au final. Tu vois, t'agis sur la société comme elle est.
C'est ça.
Après, moi, je trouve ça cool. Honnêtement, tu vois, tu montes ici sur toutes les barrières. T'as quand même beaucoup d'affiches sur sorry, mon pote est un peu lourd quand il est bourré. Ça s'appelle du harcèlement sexuel. Ouais. Je crois que c'est des choses qui sont quand même importantes. À nouveau, ça aide à créer un climat aussi dans lequel tu. Enfin, à nouveau, ça m'énerve parce que j'ai parlé de pas ma position. Parce que moi, j'ai très peu de chances d'avoir des problèmes de harcèlement sexuel en tant que mec blanc qui fait 2 mètres, tu vois.
Pareil.
Mais j'imaginais aussi en discutant avec d'autres que ça permet aussi de créer un climat qui dit ici, c'est pas permis et c'est visible partout. Et ouais, c'est cool. Et comme je disais, dans les lieux culturels, c'est en train de beaucoup prendre sa place aussi, quoi. Et je pense qu'auparavant, c'est pas qu'on s'en foutait, c'est juste que. C'est moi pour avoir bossé là-dedans, t'agis un peu dans l'urgence de ce qu'il faut, etc. Et puis tout à coup, ça devient la thématique importante et on commence à former les équipes et prendre du temps pour ça. Pareil,
tu vois,
au bout d'un moment, la question des verres recyclables dans les lieux, jusqu'à un temps, ça coûtait trop cher, c'était pas facile, c'était plus simple d'avoir les verres en plastique, jusqu'à ce que tu comprennes que ton public, ça devient quelque chose de trop important pour lui, où là, tu prends le temps de. C'est là aussi, mine de rien, la pression populaire à tous les endroits qu'on fréquente pour faire changer et dire. C'est aussi important, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est une manière d'éducation, même d'exemple d'en arriver là, quoi. Donc si on fait ça dans des festivals, on peut faire ça ailleurs, et ça c'est cool, quoi.
Ça s'ouvre, ça.
Oui.
Mais je pense qu'on va clôturer là-dessus, du coup.
C'est trop court, on pourrait te parler, je pense, pendant encore une heure, c'est un peu de temps compagnie, c'est vraiment agréable.
C'est fini.
Je vois très bien, et c'est très très plaisant. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps avec nous.
Merci à vous.
Après une performance, en plus, donc c'est pas rien, n'hésitez pas.
J'ai envie d'aller boire un verre avec toi.
Moi, je suis prêt, il me reste un fond de canette.
Allez, on fait ça. En tout cas, encore merci, et à tout bientôt, je l'espère.
Merci à vous.
Et bonne continuation.
Et c'était Guil, salut.
Ciao.